Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons cette série qui concerne les esprits mauvais existent. Nous en sommes à l'étude numéro 4 et le titre sera « Qui sont les esprits de démons ?» Qui sont les esprits de démons? Les démons sont des personnalités actuelles qui sont perverses, odieuses et nuisibles. Les esprits démons sont des personnalités, tout comme les esprits humains sont des personnalités. Les démons sont des esprits, mais ils n'ont pas de corps où habiter. Nous sommes des esprits avec des corps. Là, la différence. Nos esprits viennent de Dieu. Les esprits démons viennent de Satan. Une compréhension claire de la différence entre l'esprit et le corps vous aidera à mieux comprendre le travail des démons. J'ai un corps, mais je suis un esprit, donc j'ai mon esprit qui habite dans mon corps. Je m'exprime, mon esprit avec les facultés de mon corps s'exprime. Quelqu'un d'autre peut voir mon corps, mais il ne peut pas me voir moi parce que le réel moi est un esprit vivant à l'intérieur de ce corps qui est le mien. Mon corps est simplement la maison dans laquelle je, mon esprit, vis. Un jour certain, mon corps mourra et retournera à la poussière, mais je, mon esprit, ne mourra jamais. Je retournerai vers Dieu, origine de laquelle je viens. Je, mon esprit, suis une personnalité. Je m'exprime avec mon corps. Si vous retirez mon corps, je, mon esprit, ne pourrai plus m'exprimer. Coupez ma langue et mon esprit ne pourra plus parler. Détruisez mes oreilles et je ne pourrai pas entendre. Crevez mes yeux et je ne pourrai plus voir. Même si mes yeux sont aveugles, mes oreilles sourdes et ma langue coupée, mon esprit en moi est encore là, mais il ne peut voir, entendre ou parler. Il est donc difficile de m'exprimer handicapé à ce point. Même maintenant, continuez à couper mes jambes et mes bras et détruisez mon sens de l'odorat et mes cordes vocales et vous n'aurez pas encore détruit mon esprit. Mais mon esprit ne pourra pas s'exprimer plus longtemps. Mon esprit a encore un corps, mais ses facultés d'expression ont été détruites. Maintenant, vous pouvez comprendre ce que je veux dire quand je parle de la différence entre l'esprit et le corps ou de la différence entre moi et mon corps. Or, les démons sont des esprits sans corps. Voilà la différence. Ils sont impatients de trouver une expression dans ce monde, mais ne peuvent le faire jusqu'à ce qu'ils soient en possession de quelques corps. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi l'esprit mauvais qui fut renvoyé de l'homme n'avait aucun repos et ne pouvait être satisfait car il était un esprit de Satan envoyé en avant pour détruire et tuer et quand il ne pouvait trouver à s'exprimer dans un corps, il était tourmenté jusqu'à ce que, avec l'aide de 7 autres esprits encore plus pervers que lui, il soit capable de rentrer dans l'homme ou la femme et trouver de nouveau l'expression pour sa haine et pour sa destruction. Souvenez-vous, j'ai dit qu'un démon est une personnalité, donc un esprit, tout comme vous et moi. Et alors que vous tentez de tout votre être à faire le bien, à dire des mots bienveillants, à écouter de la musique et à répondre à chaque impulsion avec une phrase, précisément, les esprits démons sont donc impatients de s'exprimer eux-mêmes. Mais, puisqu'ils n'ont pas de corps à eux, ils doivent errer à travers la terre. Saint Matthieu, chapitre 12, verset 43, et pour être en quête de quelque corps où ils puissent entrer et trouver une expression pour mener à terme leur mission de démon. Les démons se délectent à user des lèvres ou un corps humain pour faire leur sale besoin. La puissance de leur choix pour corrompre, détruire ou conduire hors du droit chemin est possible avec l'intermédiaire d'un humain. Dieu utilise des instruments humains bénis par le Saint-Esprit pour bénir, inspirer, encourager et élever ceux qui ont besoin de son aide divine. Les Saintes Écritures furent écrites par des saints hommes de Dieu qui étaient animés par l'Esprit de Dieu. Le message de la bonne nouvelle doit être rapporté par des lèvres humaines. Dieu utilise des instruments humains pour soigner la grande famille humaine, de même que Satan use d'instruments humains pour détruire la famille humaine. Il semble pitoyable que l'homme se sente obligé de céder au diable comme intermédiaire par lequel sa propre confrérie humaine devra être détruite. Bien souvent, Satan se sert de quelques hommes ou femmes dépravés pour corrompre un garçon ou une fille innocent, puis il envoie ce garçon ou cette fille dehors comme missionnaire dans les écoles publiques et les collèges pour corrompre les esprits des autres qui étaient innocents, d'où l'expression « le loup qui vient dans la bergerie ». Bien souvent, d'aimables bébés, garçons et filles sont corrompus et dépouillés de leur pureté de cœur avant qu'ils n'atteignent le degré de l'université. Rien ne leur est laissé de pur et de saint. Les saints secrets de la vie sont tous entrés de force dans l'obscénité et la boue des conversations et des suggestions dépravées, et ces aimables bébés reviennent effrayés à jamais par la souillure de Satan. Satan est donc l'être qui aujourd'hui est en train de devenir le maître de la terre qui siège tel prince des nations. Il est l'auteur de toutes nos misères et douleurs, de nos maladies et souffrances, oui, de la mort elle-même. Il est le roi et le maître de tous les esprits démons. Il est le maître des hôtes sombres de l'enfer. Son désir et son projet le plus important est de détruire la vie humaine et par conséquent d'apporter l'affliction au cœur de Dieu le Père. nous pouvons mieux comprendre qui est Satan de par les noms qui lui sont donnés dans la Sainte Bible. Dans Saint Matthieu chapitre 13, verset 19 et le verset 38, notez bien ces versets, il est appelé le malin. Dans le verset 39, toujours de Saint Matthieu chapitre 13, il est appelé l'ennemi, puis le diable. Diable signifie accusateur, diffamateur ou calomniateur. Dans l'Apocalypse chapitre 5 verset 8, il est appelé l'adversaire, comparé à un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Dans Apocalypse chapitre 20 verset 2, il est décrit par un groupe de noms presque aussi hideux à contempler, tels que le dragon, le vieux serpent qui est le diable et Satan. Dans Saint Jean, chapitre 8, verset 44, Jésus-Christ l'appelle le meurtrier, le menteur et le père de tout mensonge. Dans Saint Matthieu, chapitre 4, verset 3, il est appelé le tentateur. Dans Saint Matthieu, chapitre 12, verset 24, le prince des démons. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 2, c'est le prince de la puissance de l'air. Dans Saint Jean, chapitre 14, verset 30, c'est le prince de ce monde. Dans le second épître de Saint Paul aux Corinthiens, c'est le corrupteur des esprits. Oui, en effet, chacun de ces noms et de nombreux autres nous montre la terrible nature de Satan et de son armée d'esprits démons. Satan est le maître de ces esprits lorsqu'il travaille jour et nuit à leur complot méchant pour détruire et ruiner les merveilles et la beauté de la création de Dieu. Depuis qu'un corps humain a les plus larges significations de l'expression ayant été l'unique fait de l'amour de Dieu, les démons recherchent comme la plus haute récompense cette possession des êtres humains. Dans le corps d'un homme ou d'une femme, les démons ont la plus large opportunité de manifestation et d'expression. Mais quand ils ne peuvent trouver cette appréciable position d'habitation, alors un corps de moindre expression fera aussi l'affaire. Mais une chose est sûre, ils ne peuvent rester sans posséder quelques corps à travers lesquels ils puissent trouver une expression. Peut-être maintenant pouvez-vous mieux comprendre pourquoi, quand Jésus-Christ est venu pour renvoyer la légion des démons du fou furieux, les démons mendièrent en disant « Oh, laisse-nous aller vers les ports maintenant !» Et étant chassés hors de l'homme, ils entrèrent dans le troupeau entier des ports et coururent tous dans l'eau pour se jeter en bas le ravin et furent noyés. Depuis que les esprits démons sont des personnalités actuelles, ils manifestent leur propre personnalité dans les personnes qu'ils possèdent. Il y existe plusieurs sortes ou types d'esprits démons, tout comme il y a différents types de personnes. Les saintes écrits de la Bible montrent de nombreux types d'esprits démons à l'œuvre et nous discuterons de quelques-uns plus tard. C'est une tragédie que les chrétiens n'aient pas été enseignés de ce que la Bible met en valeur sur le travail des démons. La seule chose que les gens entendent en ce qui concerne les démons est qu'ils sont spectres, esprits ou ombres. Quelquefois, ils les craignent sans jamais en parler. La majorité des gens a été poussée à craindre les démons, tout cela parce qu'ils ne les comprennent pas suffisamment. Avant que je ne comprenne le sujet des démons et de leur travail, de Satan et de sa défaite, je craignais de parler ou de prêcher sur eux. Mais maintenant que je comprends leur but, j'ai perdu toute peur d'eux, sachant qu'inversement, ils me craignent. Certains ont dit, avec ignorance, qu'il n'y avait pas de choses telles que les démons aujourd'hui, que le mot est uniquement une forme de langage, mais cela n'est absolument pas vrai. La Sainte Bible est aussi claire et définie dans ses enseignements sur les démons qu'elle ne l'est sur les anges. Les deux sont d'actualité et réels de nos jours. Les deux doivent être compris. Souvent, dans la Bible, il est écrit que les démons parlent. Ils parlent par l'intermédiaire des facultés d'une personne qu'ils ont possédée, tout comme votre esprit ou vous parlez par l'intermédiaire de votre propre langue et de vos cordes vocales. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Oui, tu es le Fils de Dieu ». Saint Marc, chapitre 3, versets 10 et 11. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Saint Luc, chapitre 4, versets 40 et 41. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus-Christ le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Saint Marc, chapitre 1, versets 22 à 25. Celle-ci et de nombreuses autres écritures nous montrent comment les esprits démons qui ont possédé le peuple parlaient réellement et ce qu'ils répondaient à ceux qui étaient venus pour les jeter dehors. Dans une certaine cité, un homme amena sa femme afin qu'elle soit guérie et délivrée du pouvoir du démon qui l'avait liée. Ils dirent que la femme ne pouvait être portée dans le service et elle fut par conséquent gardée dans une salle latérale du bâtiment où nous étions en train de diriger les services. Comme l'évangéliste entrait dans cette pièce, là, il a pu voir une femme grande et forte, assise dans un fauteuil, le visage retourné contre le mur. Elle pesait au moins 220 livres et était très forte. Comme il entrait dans la pièce, elle se retourna vivement et le regarda fixement dans les yeux avec un regard craintif et maussade. Et elle dit, comme elle commençait à sortir de son fauteuil, « Pourquoi je vous connais ?» Ils m'ont dit, ce matin, que je rencontrerai le vrai serviteur du Dieu le plus haut. La famille était stupéfiée, car elle n'avait soufflé mot à propos de l'amener à l'église ou vers un homme qui prierait pour elle, car elle en était venue à haïr toutes les assemblées ou églises religieuses. Les démons étaient craintifs et donc s'essayaient à la religion. Or l'évangéliste répondit, « Oui, vous les démons, vous dites la vérité. Vous êtes rencontrés maintenant par un vrai serviteur de Dieu et je vous adjure, au saint nom de Jésus-Christ, de sortir de cette femme maintenant et de la quitter de telle sorte qu'elle puisse être saine et normale de nouveau. Sortez d'elle maintenant, je vous l'ordonne, dans le saint nom de Jésus-Christ. » Les démons obéirent et la femme fut libérée et bientôt, entourée de ses bras, l'heureux mari qui pleurait tout près d'elle de joie avec des larmes de gratitude pour ce que Dieu avait fait pour son épouse. En une occasion, Jésus-Christ rencontra deux hommes possédés du démon sortant de parmi les tombes et quand il fut sur le point de les chasser, ils s'écrièrent « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Saint Matthieu, chapitre 8, verset 29. Que voulaient dire les démons par « Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» De quel temps parlaient-ils ? Eh bien, les démons savent que le lac de feu, c'est-à-dire l'enfer, a été préparé pour le diable et ses servants, et le jour viendra où le diable et qui les séduit a été et sera jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, selon Révélation, Apocalypse chapitre 20, verset 10. De même que les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, Apocalypse chapitre 21, verset 8, et avec eux, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie. Je répète, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie. Apocalypse chapitre 20, verset 15. Les démons savent que le jour arrive. Ils savent qu'ils vont alors être tourmentés jour et nuit pour les siècles des siècles. Ils savent qu'ils ne seront plus capables de tourmenter l'humanité parce que leur temps sera passé et terminé. En conséquence, sachant tout cela, ils trembleront et ils tremblent déjà devant Jésus-Christ et crient « Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Les démons ont donc peur. Ils tremblent devant les serviteurs de Dieu actuellement loin parce qu'ils savent que le pouvoir nous a été donné pour qu'ils échouent au nom de Jésus-Christ et qu'ils doivent nous obéir. C'est pourquoi les gens possédés des démons deviennent souvent violents et drastiques, lorsqu'ils sont portés vers les services d'évangélisation. Bien que la personne ne sache rien sur l'endroit où elle a été purifiée, les démons sont intelligents et ils savent qu'ils sont en la présence de la sainte parole de Dieu et du serviteur de Dieu qui a la puissance et autorité sur eux. Maintenant, vous pouvez certainement mieux comprendre la raison pour laquelle tant de gens sourds ont été guéris en restant assis ou debout dans un auditoire pendant que la sainte parole de Dieu était prêchée. Même si cette personne ne pouvait entendre le sermon, l'esprit sourd savait que sa défaite était certaine et craignant de rester debout en présence de la sainte parole de Dieu et du serviteur oint de Dieu, il s'enfuit et quitte le corps qu'il avait possédé et la personne sourde a pu entendre. La chose est vraie aussi pour toutes sortes de maladies. Le 8e chapitre de Saint Matthieu, le 5e de Saint Marc et le 8e de Saint Luc expriment la scène de Jésus-Christ chassant la légion de démons de deux maniaques. Les contextes de ces écritures révèlent les choses suivantes. Premièrement, les démons reconnaissent rendre un culte réel à Christ selon Saint Marc chapitre 5, verset 6, en essayant évidemment d'empêcher le Seigneur d'être trop sévère avec eux. Deuxièmement, Jésus-Christ leur donna l'ordre de sortir de l'homme, selon Saint Luc chapitre 8, verset 29, et Saint Marc chapitre 5, verset 8. Troisièmement, les démons le supplièrent de ne pas les tourmenter, Saint Marc chapitre 5, verset 7, et Saint Luc chapitre 8, verset 28, mais alors que le commandement n'était pas retiré, ils sont devenus plus craintifs. Quatrièmement, Christ leur demanda « Quel est ton nom ?» Et ça, vous pouvez noter Saint Marc, chapitre 5, verset 9, et Saint Luc, chapitre 8, verset 30. Cinquièmement, les démons répondirent « Mon nom est Légion, multitude, car nous sommes nombreux. » Saint Marc, chapitre 5, verset 9. Sixièmement, quand Jésus-Christ insista pour qu'ils partent, les démons horrifiés à l'idée d'être expulsés de leur habitation, le corps de l'homme, le supplièrent maintes fois de ne pas les envoyer loin de leur pays. Saint Marc, chapitre 5, verset 10. Alors, la légion des démons qui avait possédé le maniaque essayèrent de marchander un peu plus. Ils devaient être chassés, c'est-à-dire, s'ils devaient être chassés, par exemple, de leur possession humaine, eh bien, la plus proche et la meilleure habitation serait, par exemple, le troupeau de porcs qui se nourrissait près de là. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Saint Marc, chapitre 5, verset 12. Et, septièmement, il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Saint Marc, chapitre 5, verset 13. Ainsi, on peut voir comment les démons sont irrités. tentés d'abandonner leur habitation humaine, quand bien même ils doivent céder à l'autorité de Dieu, et Christ nous a dit « Je vous donne le pouvoir et l'autorité sur tous les démons. En mon nom, vous chasserez les démons. » Jésus-Christ nous enseigna une leçon des plus révélatrices à propos des démons dans le 12e chapitre de l'évangile de saint Matthieu. Ces vérités sont malheureusement négligées dans les prédications à l'heure actuelle, ainsi que de nombreux autres enseignements scripturaux à propos des démons. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits, bien plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est beaucoup pire que la première. Voilà donc une preuve très claire qu'il est possible que des démons qui ont été chassés appellent d'autres démons en renfort pour entrer de nouveau dans la personne dont ils ont été chassés lorsque la personne délivrée manque, par exemple, et ça il faut le dire 2 fois, manque de consacrer toute sa vie à Jésus-Christ. Donc, c'est là que nous devons faire attention. Dans l'exemple que nous venons de citer, le démon a été chassé, mais la personne n'a pas rempli son cœur de bonnes choses, n'a pas donc fait attention. Ainsi, le démon appela d'autres esprits plus méchants que lui, et ils ont pu entrer de nouveau, et ils y sont demeurés, et la dernière condition de cet homme est pire, évidemment, que la première. Jésus-Christ parla vraiment avec un ton d'avertissement à l'homme paralysé qui avait été guéri en disant « Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Saint Jean, chapitre 5, verset 14. Il a déjà été clairement démontré que lorsque un démon n'a pu entrer en possession d'une personne, il peut appeler d'autres esprits à l'aide, et tandis que l'un d'entre eux peut échouer, lorsqu'ils unissent leurs forces, ils peuvent réussir dans des cas où une dévotion tout entière à Christ est, on peut dire, inexistante. Mais que chaque chrétien, et je vous le répète, soit assuré que bien que Satan puisse envoyer des légions de démons pour nous attaquer, ils reculeront tous dans une défaite et un désarroi extrême parce que nous avons reçu puissance et autorité sur tous les démons et parce qu'il est écrit « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Ésaïe, chapitre 59, verset 19. La parole de Dieu imprimée dans nos vies nous assure de ce fait-là. Voyez-vous, la fille de la femme syrophénicienne, elle était possédée d'un démon. Le démon quitta la fille lorsque la foi fut exercée. Marie-Madeleine était possédée par 7 démons. Personne voudrait croire cela, mais ils sortirent tous lorsque Jésus-Christ le leur ordonna. Le maniaque parmi les tombes était possédé d'une légion, d'une multitude de démons, et ils durent tous, chacun d'entre eux, obéir à l'ordre du Seigneur et partir. Affirmons donc que ce soit un démon, 7 démons, ou même une légion d'esprits mauvais, ils doivent tous obéir à l'ordre du serviteur de Dieu donné, je dis bien qui est donné au Saint-Nom de Jésus-Christ. Chers amis, je devrais mentionner pour la joie de tout croyant la chose suivante. Marie-Madeleine était possédée par 7 esprits. Pourtant, un seul homme oint de Dieu a pu les chasser tous les 7. À l'opposé, dans l'exemple cité, il y avait 7 hommes et aucun d'entre eux n'était serviteur de Dieu sous l'onction. Et ces 7 hommes ne purent chasser un seul esprit, mais l'esprit mauvais seul a pu les vaincre tous les 7, de sorte qu'ils se sauvèrent tout nus et blessés. Quelle comparaison! Cela ne fait que prouver que toute la force naturelle et la sagesse de l'homme sont absolument vaines dans le combat contre l'adversaire de l'humanité, le diable. Cependant, tous les démons de l'enfer sont impuissants face à un véritable croyant qui est loin de Dieu, et cela prouve tout aussi clairement que les démons reconnaissent ceux qui ont de la puissance sur eux et qu'ils leur obéissent. Le révérend Branham, qui n'était peut-être pas le meilleur exemple, expliquait clairement ceci. Toute maladie a une vie, c'est-à-dire un germe, qui le met en œuvre. Et cette vie mauvaise dans le germe ne provient pas de Dieu, parce qu'elle tue et détruit la vie humaine, donc elle vient de Satan. C'est cette vie humaine, mauvaise, il faut bien le dire, ou esprit d'infirmité, qui va donner vie à la maladie ou à la tumeur, tout comme votre esprit peut donner vie à votre corps, et tout comme votre corps, lorsque l'esprit le quitte, meurt et retourne à la poussière, de même votre maladie, lorsque l'esprit d'infirmité est chassé, meurt et disparaît. Je répète cette dernière partie. Lorsque l'esprit mauvais quitte, eh bien, qu'il retourne à la poussière, de même, votre maladie, elle devra également quitter. Lorsque l'esprit d'infirmité va être chassé par le saint nom de Jésus-Christ, et donc cette infirmité ou maladie doit mourir et disparaître. Nous grandissons tous à partir d'un germe minuscule. La vie de ce germe provient de Dieu. Le corps vivant par le germe ou l'esprit de vie que Dieu fait exister a grandi et s'est développé jusqu'à ce qu'il soit devenu un corps humain complet. Aussi longtemps que la vie ou l'esprit de vie demeure dans le corps, ce corps continue de vivre. Mais aussitôt que l'esprit quitte le corps, ce corps meurt, il se décompose et ils retournent en poussière. De même, de nombreuses maladies commencent par un germe minuscule, une vie mauvaise, une vie satanique, envoyée pour vivre dans le corps humain, pour le posséder et le détruire par quelque maladie terrible. Mais aussi longtemps que la vie ou esprit d'infirmité existe dans le corps, la tumeur ou la maladie vit et elle continue son œuvre de destruction. Mais dès que le mauvais esprit ou la vie qui est mauvaise, que nous conduisons mal, où l'esprit d'infirmité a été chassé du corps au saint nom de Jésus-Christ, eh bien, malgré tout ce que nous avons été, cette maladie ou cette tumeur doit mourir et doit partir. Elle se décomposera et elle disparaîtra du corps. C'est le processus de guérison. La vie de la maladie ou de la tumeur est réprimée et elle est chassée, alors les effets de la maladie ou de la tumeur disparaissent dans un court laps de temps. Lorsque quelqu'un est guéri par miracle, l'œuvre complète est tout de suite et bien évidemment apportée par la puissance de Dieu. Par exemple, prenons un cancer. Ça, c'est une chose vivante. Sa vie, elle est satanique. Les docteurs sont tous d'accord pour dire que si un moyen quelconque pouvait être inventé pour tuer le cancer, pour éliminer la vie du cancer, alors les effets du cancer disparaîtraient du corps. Mais il y a deux vies qui luttent l'une contre l'autre. La vie du cancer et la vie qui est dans votre corps. Et à l'heure actuelle, tout moyen médical appliqué pour détruire la vie du cancer doit être d'une telle puissance qu'elle peut également attaquer, sinon détruire, la vie du corps dans lequel vit le cancer. Quelle est donc la meilleure ou la bonne réponse? Seule la foi dans la puissance et dans l'autorité surnaturelle de Dieu est la solution. Selon les Écritures saintes, Jésus-Christ a dit « En mon nom, vous chasserez les démons. Au nom de Jésus-Christ, nous, en tant que chrétiens, avons le droit et l'autorité d'expulser l'esprit ou la vie du cancer. C'est satanique. Et lorsque l'esprit ou la vie du cancer, qui provient, je dis bien de Satan, est parti, le cancer est mort et ses effets disparaissent. Maintenant, vous pouvez comprendre ce verset de saint Matthieu, chapitre 8, verset 16, qui dit « Ils amenèrent auprès de Jésus-Christ plusieurs démoniaques. » Notez que c'est la seule classe de gens spécifiques qui étaient amenés au Seigneur. Et il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. On en conclut que les maladies que Jésus-Christ guérissait étaient provoquées par les démons. Il chassait donc les démons et il guérissait les malades. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit lorsqu'il écrivait « Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Dans Saint Luc chapitre 13, Jésus-Christ entre dans la synagogue où était une femme courbée qui ne pouvait se redresser. La Bible dit qu'elle avait un esprit d'infirmité. Quel genre d'esprit ? Était-ce, par exemple, une bénédiction de Dieu ? Absolument pas. Jésus-Christ a dit, Satan la tenait liée. Si l'on avait demandé à des médecins de faire le diagnostic de cette femme, aucun spécialiste de la colonne vertébrale n'aurait répondu, un esprit de Satan l'a liée, évidemment. Les médecins auraient parlé, par exemple, d'arthrite de la colonne vertébrale, de vertèbres déplacées, ou ils auraient employé d'autres termes médicaux, et ils auraient eu raison, autant que les termes médicaux soient en cause. Mais si vous allez à la véritable source du problème, vous découvrirez qu'un esprit d'infirmité provenant de Satan la liait, cette femme. Chassez donc l'esprit, réprimez l'oppression de Satan et elle est guérie. C'est ce que a fait Jésus-Christ. Les problèmes de colonne vertébrale sont encore aujourd'hui provoqués le plus souvent par Satan. En Saint Matthieu chapitre 12 verset 22, ils lui amenèrent un démoniaque aveugle et muet. Lorsque le démon fut chassé, l'aveugle pouvait voir et le muet pouvait parler. Ainsi nous voyons qu'un esprit de cécité avait provoqué la cécité. Aujourd'hui, Satan est toujours la cause de la cécité. En Saint Matthieu chapitre 9, verset 32, on lui amena un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et ici, nous voyons que le mutisme était provoqué par un esprit muet. Et de nos jours, la source du mutisme est toujours satanique. En Saint Marc, chapitre 9, verset 25, Jésus-Christ menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Donc, ceux qui sont sourds et muets actuellement le sont le plus souvent, je ne dis pas toujours, mais 90% sont à cause de l'œuvre d'un esprit sourd et muet. En Saint Marc, chapitre 1, verset 23, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, c'est-à-dire, la personne du démon s'écria, et Jésus-Christ le menaça, disant, « Tais-toi, tais-toi et sors de cet homme. » Il se trouvait un homme turbulent dans la synagogue, et son état était dû à un esprit impur, car la cause d'un caractère impur et rebelle est toujours et encore un démon. La belle-mère de l'apôtre Pierre avait la fièvre. Jésus-Christ se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. Saint Luc chapitre 4, verset 39. Vous ne pouvez pas menacer quelque chose qui ne peut pas comprendre vos paroles. Vous ne pouvez menacer qu'une personnalité. Jésus-Christ reconnut que Satan a l'œuvre dans ce corps, est était vraiment la cause de la fièvre. Il la menaça et elle disparut. La fièvre vient toujours du diable, et lorsque elle est menacée au Saint-Nom de Jésus-Christ, elle doit s'en aller. Les médecins peuvent appeler cela de l'arthrite, mais l'esprit du diable est la cause véritable. Le terme médical peut être corde vocale non développée ou nerf auditif mort, mais le véritable problème, c'est un esprit sourd et muet provenant du diable qui devrait être chassé par le Saint-Nom de Jésus-Christ. Le spécialiste peut dire que c'est un glaucome ou de la cataracte, mais Jésus-Christ disait que c'était un esprit de cécité. Voici le témoignage d'un pasteur. Une femme qui était possédée d'un esprit est venue à l'une de ses réunions. Elle était sous l'emprise de Satan qui était déterminé à lui ôter la vie. Sa gorge pouvait se fermer de sorte qu'elle ne pouvait plus avaler. Des voix étranges sortaient de sa gorge et elle disait des choses terribles. Elle était méchante, pleine de ressentiment et continuellement tourmentée parce que les voix lui disaient que quelqu'un la suivait ou la regardait. Lorsque l'on pria pour elle et que les démons furent chassés, elle tituba le long en large pendant quelques instants comme une ivrogne, puis soudainement elle devint normale. Son regard, qui avait exprimé de la haine, était devenu doux et tendre. Ses lèvres, qui avaient retenu des dents serrées, dessinèrent vraiment un sourire maintenant, devenu doux et détendu. Des larmes roulèrent le long de ses joues, comme elle nous disait calmement, « Oh, je me sens maintenant libre !» Je me sens si heureuse, je suis guérie, je me sens bien, oh, je me sens comme si j'avais une nouvelle gorge, je sens que je suis libérée de tous les liens, oh, merci Seigneur. Et elle se sentit bien dès que le démon eut été chassé et sa gorge fut guérie. Une dame qui était totalement aveugle nous fut amenée pour que nous prions pour elle. Les médecins disaient que ses nerfs optiques étaient morts. Pendant près de 15 ans, elle avait tâtonné dans une cécité totalement conduite par un très beau chien. « Je menaçais, dit le pasteur, car c'est lui qui nous donne ses témoignages, je menaçais l'esprit de cécité qui la tenait liée. Il la quitta lorsque je lui en donnai l'ordre au Saint-Nom de Jésus-Christ et la dame hurla de joie. « Oh, je peux voir maintenant et je suis guéri. » On nous amena, continue ce pasteur, on nous amena également une très belle jeune fille. Les médecins disaient qu'elle avait perdu l'esprit pour avoir trop travaillé et avoir subi trop de surmenage. Lorsque le démon de démence eut été chassé au Saint-Nom de Jésus-Christ, nous savions qu'il l'avait quitté, bien que sur l'instant rien ne se soit produit qui puisse nous en assurer. Mais au bout de quelques jours, parce que parfois ça ne se fait pas en claquant des doigts, elle était devenue normale et elle travaillait à nouveau normalement. Il ne fait aucun doute que la maladie provient de l'ennemi. non seulement les Saintes Écritures nous l'enseignent, mais un raisonnement logique et ordinaire aussi. Si la maladie provenait de Dieu, supposons, tous les hôpitaux seraient des foyers de rébellion plutôt que des lieux de miséricorde, parce que en cherchant à se débarrasser de la maladie, ils se rébelleraient contre Dieu et son prétendu programme de maladie. Si la maladie venait de Dieu, alors nous devrions nous opposer aux hôpitaux, aux infirmières, aux médecins et aux médicaments, car ils cherchent tous à soulager et à rétablir ceux qui souffrent de maladie. Mais parce que la maladie provient de Satan, Dieu a sûrement créé les médecins, les médicaments, les hôpitaux et la science médicale. Puisque la maladie vient de Satan, tout moyen de soulager le patient doit donc être prescrit par Dieu. Les prédicateurs qui croient que Dieu veut que ses enfants souffrent ne devraient ni appeler le médecin, ni recommander un traitement médical aux membres de leur Église, car en faisant cela, ils cherchent à violer la volonté divine dans leur vie. Mais je remarque que ce sont ceux-là même qui pêchent, mais plutôt qui prêchent ces choses de cette façon-là. Qui sont toujours prêts à recommander le médecin qu'ils trouvent le plus qualifié pour soulager les souffrances par les moyens médicaux, que Dieu veuille que son enfant souffre ou non. Donc, les prédicateurs qui croient que la maladie est une bénédiction ne devraient accepter aucun traitement médical pour se débarrasser de leur maladie, mais devraient plutôt prier afin que toute leur famille et les membres de l'Église reçoivent de telles bénédictions, si on peut dire ainsi. Mais je constate que ces personnes qui donnent de tels conseils recherchent toujours le meilleur médecin ou spécialiste qui puisse opérer et ôter la bénédiction, soi-disant, que Dieu veuille qu'ils la reçoivent ou non. Donc, les prédicateurs qui enseignent que la maladie est un châtiment de Dieu envers ses enfants désobéissent, ne devraient donc jamais recommander l'hospitalisation, mais devraient plutôt dire aux malades de recevoir pleinement la punition divine qui leur semble une bénédiction, jusqu'à ce que Dieu juge bon de lever la punition, et c'est à partir de cet instant que ce sont ceux qui enseignent de telles choses qui sont généralement les premiers à recommander l'obéissance envers l'hôpital pour une intervention ou un traitement, dans un effort désespéré d'essayer de se débarrasser de la maladie, qu'elle soit ou non un châtiment de Dieu. Donc, ceux qui croient et qui enseignent que la maladie vient de Dieu devrait s'opposer à tout moyen permettant de soulager la souffrance. Il est illogique d'enseigner que la maladie puisse être donnée par Dieu, puis de recommander un traitement médical pour s'en débarrasser. Par contre, puisque la maladie est satanique, alors tous les moyens pour la détruire doivent provenir de Dieu. Alléluia. Si Dieu veut que nous souffrions pour sa gloire, supposons, alors nous ferions mieux de souffrir plutôt que d'être en bonne santé. Si la volonté de Dieu est que quelqu'un soit malade, alors cette personne ne doit rien faire qui puisse empiéter sur la volonté divine, et elle doit donc demeurer patiemment malade jusqu'à la mort. Mais puisque la maladie, me semble-t-il à moi, vient vraiment de l'ennemi, alors tout moyen de la soulager doit être une bénédiction, que ce soit la prière de la foi ou le don de guérison pour ceux qui servent fidèlement Dieu et croient en ses divines promesses et s'y confient, ou la science médicale pour ceux qui ne servent pas Dieu et qui n'ont pas la foi dans les promesses de guérison. Avant de conclure cette leçon, je voudrais dire que l'homme et la femme ont été créés en bonne santé, forts, heureux et en communion avec Dieu. Mais Satan, le séducteur par excellence, a poussé Adam et Ève à désobéir aux ordres de Dieu et à donner de sa sainte parole le doute. Je dis bien, il a mis le doute dans la parole de Dieu. Alors, il prêche en quelque sorte contre Dieu, et ils se sont soumis d'eux-mêmes, malheureusement pour eux, à l'autorité de Satan, pour être toujours ses esclaves. C'est pour cela qu'ils furent expulsés du jardin d'Éden, afin d'être séparés de la présence de Dieu pour toujours, pour leur désobéissance volontaire à la sainte parole de Dieu. Ce fut alors que la maladie, la douleur et la souffrance entamèrent leur œuvre fatale en détruisant la santé de la propre création de Dieu, et qu'elle a poursuivi cette œuvre depuis là, jusqu'à ce que Christ, le Fils de Dieu, ne vienne et porte nos péchés et nos maladies et qu'il les emporte carrément. Il a payé la peine requise pour la désobéissance de l'homme en étant battu et crucifié pour nous libérer du péché et de la maladie. Maintenant qu'il a payé notre dette et qu'il a souffert notre peine à notre place, Dieu nous a déclarés libres. Par son sang versé, nous avons reçu la rémission de nos péchés, et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Gloire à Dieu. Notre délivrance et notre rédemption de toutes les œuvres de Satan ont été accomplies par Christ au calvaire. Et lorsque il prononça ces mots, tout est accompli, c'est comme s'il avait hissé le drapeau du vainqueur sur une terre libérée, alors que le combat est terminé, que l'ennemi a été vaincu et qu'il a été obligé de se rendre. Donc Christ a connu comme étant le chef, il est connu comme étant le chef de notre salut. N'oublions jamais cela. Je répète, Christ, il est vraiment le chef de notre salut et il est l'auteur et le consommateur de notre foi, et il est venu dans ce monde. Il a vaincu l'ennemi, il l'a dépouillé de son autorité et il a porté au loin nos souffrances et nos défaites. Il est donc ressuscité du tombeau, vainqueur du diable, et il a proclamé ces mots triomphants, « Tout est accompli ». Notre salut, notre guérison et notre délivrance sont donc accomplis. L'étendard et la victoire fut déployé, la bannière de l'amour et la paix entachée de sang a été hissée et il flotte tel le symbole du triomphe total de Christ et sa victoire complète sur toutes les œuvres du diable qu'il est venu pour détruire. Maintenant, nous sommes libérés des mains de l'oppresseur, nous sommes libres dans notre corps, dans notre esprit et dans notre âme. Notre terre est libérée. Vous avez été rachetés à un très grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent maintenant à Dieu. Christ, chef de notre salut, a combattu pour nous et il nous a libérés de la puissance et de la domination de l'ennemi. Maintenant, vous pouvez dire « Je suis sauvé par son sang précieux et par ses meurtrissures, je suis guéri, car la rédemption vous appartient pour toujours. » Mais alors, pourquoi y a-t-il tant de personnes qui sont encore malades, même parmi les chrétiens? Parce que bien que notre propriété ait été légalement libérée de l'ennemi, bien que le régime de Satan ait été détruit par Christ, bien que la puissance de Satan sur nos vies lui ait été ôtée, il demeure une armée de démons qui continue de résister à notre avance et qui ne peut admettre notre victoire. Ils n'ont aucun droit légal pour continuer d'oppresser et d'affliger ceux qui sont sauvés par la maladie ou les infirmités, mais ils savent que plusieurs milliers de personnes ne savent pas que Satan s'est rendu et qu'il a été dépouillé. Des milliers de personnes ne savent pas que les forces de Satan n'ont plus aucun droit légal sur nous et ils continuent ainsi leur opposition illégale contre la race humaine. Ils opèrent leurs attaques de maladies et de défaites contre de nombreuses personnes à cause de leur ignorance. Aussi longtemps que les gens ignoreront la défaite de Satan, il peut agir sans entrave, mais notre rôle consiste à lire la sainte parole de Dieu et la connaître et à découvrir le récit de la défaite totale de Satan. Alors nous pourrons résister au diable, être fermes dans la foi, et il fuira loin de nous. Chers amis, Satan est votre adversaire. Les démons sont vos ennemis qui ne peuvent pas admettre vos droits légaux sur eux et sont jaloux de votre héritage. Ils chercheront toujours à entraver votre progrès et à vous escroquer chaque pouce de terre promise. Mais comme Josué et les enfants d'Israël, vous devez avancer et posséder votre pays sans crainte. La Bible enseigne que vous devez reconnaître votre ennemi, le viser, étudier ses tactiques de combat et être entraîné dans votre compétence et votre foi pour le chasser. Tout cela peut être fait en lisant et en connaissant la sainte parole de Dieu. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde ténébreux, contre les esprits méchants des lieux célestes. Tout ce qui est mal, destructeur, mauvais, haineux et asservissant vient de Satan. Tout ce qui est bon, béni, aimable, doux et pur vient de Dieu. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, c'est-à-dire du Père. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. J'en conclus que Satan est un mauvais diable et que Dieu est un bon Dieu. Les bonnes choses viennent donc de Dieu et les mauvaises choses viennent de l'ennemi. Satan, votre adversaire, est toujours présent pour mettre votre foi en doute, ainsi que votre intégrité et les droits que vous avez acquis par alliance. Satan mène toujours une rébellion ouverte contre Dieu et sa famille. Mais Jésus-Christ a paru afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable sont et ont toujours été de dérober, d'égorger et de détruire les âmes, les esprits et les corps de la création de Dieu, en partie et dans son ensemble. Mais Christ est venu pour détruire toutes les mauvaises œuvres de Satan. Jésus-Christ l'a vaincu et nous a donné la puissance et l'autorité sur tous les démons. Il est un fait que Satan s'opposera toujours à nous. Il nous méprise. Mais nous avons été avertis et il nous est demandé d'être sur nos gardes. Nous avons reçu toute une armure avec laquelle nous pouvons lui résister. Jésus-Christ, avant d'aller vers le Père, a accordé à chaque croyant le droit d'utiliser son nom contre le diable. L'épée de l'Esprit qui est la sainte parole de Dieu est entre nos mains. Nos pieds sont chaussés de l'Évangile. Le casque du salut est sur notre tête et le bouclier de la foi est notre défense par laquelle nous pourrons éteindre, vraiment, nous pourrons éteindre tous les traits qui sont enflammés et qui sont dirigés sur nous du malin. Alors écoutons simplement notre chef, Jésus-Christ, nous dire dans Saint Luc, chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il leur donna puissance et autorité sur tous les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur, ni de trembler, mais nous devons être forts, audacieux, dans la foi, et résister à Satan avec toute l'armure de Dieu, chasser les démons au saint nom de Jésus-Christ, et vaincre toute force opposante avec l'épée de l'Esprit Saint qui est la sainte parole de Dieu. » Chers amis, vous qui êtes à l'écoute, vous qui avez été à l'écoute de ce message. Eh bien, certains d'entre vous désirent la prière que je vais prier pour vous, et vous pouvez prier cette prière que je vais prier pour vous maintenant, et vous pouvez la prier en même temps si vous voulez, ou après, un peu plus tard, comme vous voulez. Prions donc maintenant. Seigneur, ne me punis pas dans ta colère. Ne me châtie pas dans ta fureur. Exerce ta miséricorde sur moi, car je suis faible. Guéris-moi, car mes os me font mal. Il n'y a ni douceur, ni remède pour mon cas. C'est ta puissance seule, c'est ta puissante parole qui seule peut me guérir. Ô Seigneur, guéris-moi et je serai sauvé. Seigneur, je souffre d'une terrible douleur. Donne à ma prière une réponse favorable. Je te présente à nouveau toutes les années de ma vie dans l'amertume de mon cœur. Je crains la mort parce que je ne suis pas encore prêt. Souviens-toi de moi, ô Seigneur. Ne te venge pas de mes péchés et ne te rappelle pas mes erreurs. Mon Dieu, je m'en remets à ta miséricorde, agis pour mon bien, Jésus-Christ, fils de David, que ta miséricorde soit sur moi. Viens à moi avant qu'il soit trop tard. Viens à mon aide, toi Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ, ton fils bien-aimé. Amen. Amen. Chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et demain, Dieu voulant, vous aurez la suite de cette série. Au revoir et à bientôt.